Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal et on commence avec les titres. Augmenter la sécurité dans la région, l'Indonésie organise une réunion trilatérale. Ministère des Affaires étrangères n'a pas confirmé l'application de la peine de mort viole le droit international. La culture d'algues ouvre l'opportunité d'investissement. Le café Ijen est entré dans le marché de la Nouvelle-Zélande. Le président du Parlement indonésien a rencontré le président serbe pour discuter des relations commerciales. L'Indonésie et la Pologne établissent un partenariat pour lutter contre le terrorisme. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Afin d'améliorer la sécurité maritime dans la région, l'Indonésie organise une réunion trilatérale avec les Philippines et la Malaisie. L'Indonésie tiendra une réunion trilatérale avec la Malaisie et les Philippines pour renforcer la sécurité dans la région. Cette réunion aura lieu au ministère des Affaires étrangères le 5 mai 2016 à Jakarta. La réunion sera participée par les ministres étrangers et les commandants des forces armées des trois pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse tenue le jeudi 28 avril, a déclaré que cette réunion était l'instruction du président Joko Widodo pour discuter des efforts conjoints liés au détournement et la prise d'otages dans la région de Sulawesi et l'île Zulu, les Philippines. On inquiète que la menace de sécurité peut perturber l'économie des trois pays à l'avenir parce que cette zone est une voie importante économique. Selon Armanata, les choses qui seront discutées sont la coordination des forces armées et de la sécurité maritime. Le but de cette réunion est de discuter de la situation de la sécurité maritime et aussi l'escalade des problèmes de sécurité dans la région qui devient le point de rencontre des trois pays, comme on a dit à Zulu et Sulawesi. Selon Armanata, on espère que cette réunion peut produire une déclaration conjointe sur l'engagement à maintenir la sécurité et la stabilité économique dans la région. Dans cette réunion, on va signer un mémorandum d'accord conjointe des trois commandants des forces armées sur les détails de la coopération de sécurité maritime dans la région. La forme concrète de coopération peut être faite entre autres par la patrouille conjointe. L'Indonésie a lancé la réunion. Cela est une preuve du leadership de l'Indonésie dans la région. Le gouvernement indonésien n'a pas l'intention d'abolir la peine capitale dans le système juridique national. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, à Jakarta, a déclaré jeudi que l'application de la peine de mort pour les condamnés du cas de stupéfiants et de drogue qui a été appliquée en Indonésie n'a pas violé le droit international. Le gouvernement indonésien reçoit souvent des protestations de la communauté internationale liées à la peine de mort. Mais selon Armanata, d'autres pays doivent respecter la politique dans le cadre de l'application de la loi en Indonésie. Le ministère indonésien des Affaires étrangères ne savait pas encore quand l'exécution de la troisième étape sera réalisée. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Kadin Indonesia, M. Rosan Ruslani, a déclaré que la signature du protocole d'accord entre l'Indonésie et la Chine pourrait être l'occasion d'apporter des investissements étrangers dans le secteur des algues. En outre, l'accord peut également donner la valeur ajoutée à l'industrie des algues nationales. Rosan Ruslan a déclaré jeudi que l'Indonésie, comme le plus grand producteur des algues, a une possibilité ouverte pour développer l'industrie des algues dans divers secteurs, tels que cosmétiques et alimentation. Il souhaite que le protocole d'accord puisse être appliqué immédiatement. Vous écoutez toujours le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Wellington promeut le café dans la ville de Wellington, la Nouvelle-Zélande, à travers une activité qui présente le café Java Arabica d'origine du Mont Ijen Banyuwangi, Java Oriental. L'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, José Tavares, a déclaré vendredi dans une conférence de presse vendredi que les hommes d'affaires de diverses entreprises de café à Wellington étaient présents pour écouter les informations sur le café Java Arabica qui était présenté par Adnan Assegaf de l'entreprise Java Café. José Tavares souhaite que cette promotion du café puisse augmenter les exportations du café indonésien à la Nouvelle-Zélande. Les exportations du café indonésien à la Nouvelle-Zélande en 2015, soit en moyenne de 60 tonnes par mois, avec une valeur d'environ 350 000 dollars de Nouvelle-Zélande. Le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, a reçu le président serbe Tomislav Nikolic au bâtiment Parlement le jeudi et ils ont discuté d'un certain nombre de choses. L'un d'entre eux et sur l'amélioration des relations commerciales entre les deux pays. Jusqu'à présent, les relations commerciales des deux pays se déroulaient bien et seront intensifiées dans l'avenir. Selon Ade Komarudin, en plus des relations commerciales, à cette réunion, ils ont discuté également des relations entre les deux pays qui ont existé depuis l'époque du président Sukarno au président Joko Widodo. Auparavant, mercredi 27 avril, le président Joko Widodo et son homologue président Nikolic ont mené des réunions bilatérales. Ils ont signé la coopération, à savoir l'exemption de visa pour titulaires de passeports diplomatiques et des passeports de service entre les deux pays. L'Agence nationale contre le terrorisme de la République d'Indonésie, ou BNPT, établit la coopération dans la lutte contre le terrorisme avec la Pologne. L'Indonésie est considérée comme très expérimentée dans la lutte contre le terrorisme par la Pologne. L'agent de l'Agence nationale contre le terrorisme chargé de coopération internationale, l'inspecteur général Petrus Reinhard Golos, et le directeur de la coopération bilatérale de BNPT, le général de brigade Budiono Sandi, avec les membres de BNPT, ont visité Varsovie, en Pologne, du 25 jusqu'au 27 avril 2016. Accompagné de l'ambassadeur d'Indonésie en Pologne, Peter F. Gonta, l'inspecteur général Peter Golos et l'équipe de BNPT ont rencontré le ministre de coordination des affaires spéciales pour la sécurité et renseignement, Marius Kaminski, et le ministre des Affaires étrangères en tant également le chef du Bureau national de sécurité, Paul Solor. Comme cité par Compass, Petrus Golos a affirmé jeudi que la lutte contre le terrorisme ne pouvait pas être abordée par un seul pays. La coopération internationale est nécessaire à la fois dans la région ou parmi les régions. Il a ajouté que la Pologne avait salué la coopération de lutte contre le terrorisme parce que la Pologne nécessite les partenaires. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis d'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'Indonésie a déploré les essais nucléaires de la Corée du Nord ». La situation politique dans la péninsule coréenne continue à se réchauffer à la suite d'un essai nucléaire et balistique par la Corée du Nord. Une source officielle au sein des forces armées de la Corée du Nord a déclaré que la Corée du Nord avait lancé de nouveau les missiles comme les essais d'armes nucléaires, bien que la source des forces armées sud-coréennes a dit que les essais de lancement de missiles d'un sous-marin aient échoué. Les États-Unis, un proche allié de Séoul, a montré sa colère en avertissant Pyongyang de ne pas ajouter la situation politique compliquée dans la péninsule coréenne. Washington a transmis la menace d'imposer de nouvelles sanctions. Comme cité par l'agence de nouvelles chinoise Xinhua, l'avertissement de Washington à Pyongyang a été déclaré par le porte-parole du département d'État américain, Mark Toner. Pyongyang a négligé les sanctions qui ont été imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies récemment. Comme preuve, Pyongyang a lancé de nouveau les missiles balistiques dans sous-marin. Contrairement à la déclaration de la source des forces armées sud-coréennes indiquant que le lancement a échoué, la Corée du Nord a revendiqué les essais des missiles balistiques effectués jeudi étaient succès. Les efforts de lancement de missiles balistiques à la distance de 3000 km étaient une démonstration de force du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La portée des missiles peut atteindre Guam, le territoire américain dans le Pacifique. L'acte nord-coréen qui a empoisonné de négliger des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des menaces aux États-Unis conduirait à une escalade de la politique et aggrave les relations de ce pays avec le pays voisin le plus proche, la Corée du Sud. L'Indonésie considère les deux Corées comme un pays ami. Donc, l'Indonésie considère l'importance de l'harmonisation des relations entre les deux pays sur la péninsule coréenne. L'Indonésie ne voulait pas la persistance des tensions dans la région. Par conséquent, l'Indonésie a déploré la Corée du Nord qui a négligé des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et ne s'efforce pas à montrer ses bonnes intentions. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous présenter maintenant le programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, de l'édition 29 avril. Nous allons commencer le 29 avril 1991. Yuli Sulianti Saroso, les experts médicaux indonésiennes, est décédé. Professeur Yuli Sulianti Saroso était une médecin indonésienne important. En 1951, elle a commencé sa carrière au ministère de la Santé. Elle a occupé divers postes dans la protection maternelle et infantile, responsable des relations extérieures, chef adjoint de l'éducation, chef de la santé publique, en milieu rural et de l'éducation et de la santé des gens. Au cours de la lutte pour l'indépendance, Julie a essayé de préparer les médicaments et les alimentaires pour les poches de la zone guérilla à Tambun, Gresik, Demak et Yogyakarta. Et elle était arrêtée par l'armée néerlandaise pendant 2 mois à Yogyakarta. Dr. Julie Sulianti Saroso a été actif dans les une organisation des jeunes et des filles indonésiens, ou PPI. En 1947, Yuli Sulianti Saroso a représenté l'Indonésie dans un congrès sur les femmes en Inde. Pour ses fils, le professeur Yuli Sulianti Saroso a reçu de nombreux prix, entre autres l'étoile de Mahaputra Pratama du président en 1975, la décoration du comité régional OMS de l'Asie du Sud-Est, la décoration de la charte de l'OMS à Genève pour sa participation à l'éradication de la variole dans le monde. Yuli Sulianti Saroso est également l'une des deux femmes en tant que présidente de l'Assemblée mondiale de la santé, en plus de Rajkumari Amri Kaur de l'Inde. Et l'honneur de ce service, un hôpital de Jakarta a été nommé comme le nom que l'hôpital de maladies infectieuses de professeur Dr. Sulianti Saroso. On cherche le 29 avril 1901, naissance de Hirohito. L'empereur du Japon Hirohito, né à Tokyo le 29 avril 1901, couronné le 25 décembre 1926 à la mort de son père Taisho. Il prend pour nom Showa. Acte majeur durant la Seconde Guerre mondiale, Hirohito détient toujours le record du plus long règne de l'histoire du Japon, 62 ans. Il est mort le 7 janvier 1989 et est remplacé par son fils, l'actuel empereur du Japon, Akihito. On termine le 29 avril 1990, le mur de Berlin a commencé à être détruit. Le mur de Berlin est un mur qui sépare la frontière de Berlin-Ouest et Berlin-Est et d'autres régions est-allemandes. Ce mur a été créé le 13 août 1961 par le gouvernement communiste est-allemand sous la direction de Walter Ulbricht. Confiner le mur de Berlin-Ouest est occupé exactement au milieu de cette ville et devenu un symbole le plus célèbre de la guerre froide. Beaucoup lu à l'Ouest, en particulier la visite de la présidente des États-Unis pour condamner le mur. Président JFK Kennedy en 1963 pour venir parler sur le côté de ce mur. Puis en 1983, le président Ronald Reagan a également abordé ici et l'Union soviétique a condamné ce qu'il appelait un empire du mal ou un empire du mal. Chers auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, la voix d'Indonésie à Jakarta, l'édition 29 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, l'intégration de l'arrangement des zones côtières. Le projet de réclamation des 17 îles dans la baie de Jakarta avait causé les pour et contre chez les gens, même devient la discussion au Parlement. Certaines communautés ont évalué que la réclamation était faite sans la participation et la consultation avec la communauté ainsi que l'existence d'attention sur le sort de pêcheurs. Même cette réclamation a également été considérée de ne pas passer l'analyse de l'impact environnemental AMDAL. En outre, cette réclamation endommagera également l'environnement dans la région du golfe de Jakarta. Néanmoins, ces problèmes ont commencé à avoir une tache lumineuse. Le gouvernement a décidé l'application du moratoire de la réclamation du golfe de Jakarta jusqu'à 6 prochains mois. Jusqu'à présent, le gouvernement va créer un plan directeur lié au développement et la construction des zones côtières dans la capitale ou, soi-disant, le développement de la capitale nationale intégrée des zones côtières, NCICD, ou la construction du géant digue de mer. Le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, a déclaré que le président Joko Widodo avait nommé le chef de l'Agence nationale de planification pour le développement pour achever le plan directeur relatif au développement des zones côtières dans la capitale dans une réunion à huis clos sur la réclamation de Jakarta au bureau présidentiel mercredi 27 avril. Pramono a expliqué que le gouvernement avait décidé d'intégrer le projet de réclamation des 17 îles dans la baie de Jakarta avec le projet de construction de géants digues de mer dans un grand programme. Le projet de la géante digue de mer est un effort de protéger la capitale contre le risque d'inondation et d'autres problèmes. Selon Pramono Anung, le président Joko Widodo a rappelé la mise en œuvre du projet devrait être en mesure de répondre à la question de l'environnement, la vie marine, les mangroves et d'autres questions. Le projet ne doit pas violer toute la loi de la réglementation applicable. C'est pourquoi il nécessite de synchronisation des règlements dans tous les ministères et institutions de l'État. Le président Joko Widodo a souligné que le projet devrait offrir des avantages à la communauté locale, en particulier les pêcheurs locaux. Sans les avantages pour la communauté, ce grand projet n'a pas de sens. Dans un avenir proche, le président Joko Widodo révisera également le décret présidentiel de 1995 lié à la réclamation de la baie de Jakarta et de les adapter aux conditions actuelles. Les résultats de la science du cabinet limité ont décidé que le mécanisme de licence du projet de réclamation des 17 îles sera tenu par l'administration de Jakarta, à savoir les îles A jusqu'à M. Le reste, pour les îles N, O, P et Q, sa licence est sous le ministère des Transports, parce que les quatre îles sont en ligne avec le projet de développement du nouveau port de Priok. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Afin d'améliorer la sécurité maritime dans la région, l'Indonésie organise une réunion trilatérale avec les Philippines et la Malaisie. L'Indonésie tiendra une réunion trilatérale avec la Malaisie et les Philippines pour renforcer la sécurité dans la région. Cette réunion aura lieu au ministère des Affaires étrangères le 5 mai 2016 à Jakarta. La réunion sera participée par les ministres étrangers et les commandants des forces armées des trois pays. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, dans la conférence de presse tenue le jeudi 28 avril, a déclaré que cette réunion était l'instruction du président Joko Widodo pour discuter des efforts conjoints liés au détournement et la prise d'otages dans la région de Sulawesi et l'île Zulu, les Philippines. On inquiète que la menace de sécurité peut perturber l'économie des trois pays à l'avenir parce que cette zone est une voie importante économique. Selon Armanata, les choses qui seront discutées sont la coordination des forces armées et de la sécurité maritime. Le but de cette réunion est de discuter de la situation de la sécurité maritime et aussi l'escalade des problèmes de sécurité dans la région qui devient le point de rencontre des trois pays, comme on a dit à Zulu et Sulawesi. Selon Armanata, on espère que cette réunion peut produire une déclaration conjointe sur l'engagement à maintenir la sécurité et la stabilité économique dans la région. Dans cette réunion, on va signer un mémorandum d'accord conjoint des trois commandants des forces armées sur les détails de la coopération de sécurité maritime dans la région. La forme concrète de coopération peut être faite, entre autres, par la patrouille conjointe. L'Indonésie a lancé la réunion. Cela est une preuve du leadership de l'Indonésie dans la région. Le gouvernement indonésien n'a pas l'intention d'abolir la peine capitale dans le système juridique national. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, à Jakarta, a déclaré jeudi que l'application de la peine de mort pour les condamnés du cas de stupéfiants et de drogue qui a été appliquée en Indonésie n'a pas violé le droit international. Le gouvernement indonésien reçoit souvent des protestations de la communauté internationale liées à la peine de mort. Mais selon Armanata, d'autres pays doivent respecter la politique dans le cadre de l'application de la loi en Indonésie. Le ministère indonésien des Affaires étrangères ne savait pas encore quand l'exécution de la troisième étape sera réalisée. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie Kadin Indonesia, M. Rosan Ruslani, a déclaré que la signature du protocole d'accord entre l'Indonésie et la Chine pourrait être l'occasion d'apporter des investissements étrangers dans le secteur des algues. En outre, l'accord peut également donner la valeur ajoutée à l'industrie des algues nationales. Rosan Ruslan a déclaré jeudi que l'Indonésie, comme le plus grand producteur des algues, a une possibilité ouverte pour développer l'industrie des algues dans divers secteurs, tels que cosmétiques et alimentation. Il souhaite que le protocole d'accord puisse être appliqué immédiatement. Vous écoutez toujours le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Wellington promeut le café dans la ville de Wellington, la Nouvelle-Zélande, à travers une activité qui présente le café Java Arabica d'origine du Mont Ijen Banyuwangi, Java Oriental. L'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, José Tavares, a déclaré vendredi dans une conférence de presse vendredi que les hommes d'affaires de diverses entreprises de café à Wellington étaient présents pour écouter les informations sur le café Java Arabica qui était présenté par Adnan Assegaf de l'entreprise Java Café. José Tavares souhaite que cette promotion du café puisse augmenter les exportations du café indonésien à la Nouvelle-Zélande. Les exportations du café indonésien à la Nouvelle-Zélande en 2015, soit en moyenne de 60 tonnes par mois, avec une valeur d'environ 350 000 dollars de Nouvelle-Zélande. Le président du Parlement indonésien, M. Ade Komarudin, a reçu le président serbe Tomislav Nikolic au bâtiment Parlement le jeudi et ils ont discuté d'un certain nombre de choses. L'un d'entre eux est sur l'amélioration des relations commerciales entre les deux pays. Jusqu'à présent, les relations commerciales des deux pays se déroulaient bien et seront intensifiées dans l'avenir. Selon Ade Komarudin, en plus des relations commerciales, à cette réunion, ils ont discuté également des relations entre les deux pays qui a existé depuis l'époque du président Sukarno au président Joko Widodo. Auparavant, mercredi 27 avril, le président Joko Widodo et son homologue président Nikolic ont mené des réunions bilatérales. Ils ont signé la coopération, à savoir l'exemption de visa pour titulaires de passeports diplomatiques et des passeports de service entre les deux pays. L'Agence nationale contre le terrorisme de la République d'Indonésie, ou BNPT, établit la coopération dans la lutte contre le terrorisme avec la Pologne. L'Indonésie est considérée comme très expérimentée dans la lutte contre le terrorisme par la Pologne. L'adjoint de l'Agence nationale contre le terrorisme chargé de coopération internationale, l'inspecteur général Petrus Reinhard Golos, et le directeur de la coopération bilatérale de BNPT, le général de brigade Budiono Sandi, avec les membres de BNPT, ont visité Varsovie, en Pologne, du 25 jusqu'au 27 avril 2016. Accompagné de l'ambassadeur d'Indonésie en Pologne, Peter F. Gonta, l'inspecteur général Peter Golos et l'équipe de BNPT ont rencontré le ministre de coordination des affaires spéciales pour la sécurité et renseignement, Marius Kaminski, et le ministre des Affaires étrangères entend également le chef du Bureau national de sécurité, Paul Solor. Comme cité par Compass, Petrus Golos a affirmé jeudi que la lutte contre le terrorisme ne pouvait pas être abordée par un seul pays. La coopération internationale est nécessaire à la fois dans la région ou parmi les régions. Il a ajouté que la Pologne avait salué la coopération de lutte contre le terrorisme parce que la Pologne nécessite les partenaires. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter un plat typique de Nusa Tenggara West, c'est Kela Lebo. Le lac Lebo est l'un des principales zones touristiques à Sumbawa West, avec une superficie d'environ 752 hectares. Le plus grand lac dans la province de Nusa Tenggara West possède le potentiel des ressources naturelles pour l'économie des communautés environnantes, car ils sont utilisés comme lieux de pêche et pisciculture des eaux douces. L'approvisionnement en eau d'irrigation agricole, la source d'eau brute pour des ménages, ainsi que le potentiel de l'écotourisme. Comme la zone de l'écotourisme, les touristes peuvent faire comme la pêche. Outre la pêche, les touristes peuvent également inviter la famille et les amis pour profiter de l'air de la montagne naturellement dans ce lac. Si vous voyagez au lac Lebo, n'oubliez pas de goûter son plat typique, à savoir Kela Lebo. C'est l'aliment typique de Sumbawa West. Kela, dans la langue locale, signifie bouilli. Et Lebo est le nom du lac. Kela Lebo définit ébullition ou la cuisson des poissons qui sont pris directement du lac Lebo. Le lac Lebo produit le tilapia, tawes et le liège. Ces poissons sont cuits en aliment typique du lac Lebo. Le processus de cuisson est assez facile. Tout d'abord, l'oignon et l'ail sont coupés en tranches et ensuite sautés sans huile. Ajoutez la sauce cinnamon qui a été écrasée, telle que le curcuma, la muscade, le piment rouge et l'oignon, y compris l'eau de tamarine. Après que l'eau soit bouillie, ajoutez les morceaux de poisson qui ont été nettoyés et recuit jusqu'à cuisson. La nourriture typique du lac Lebo est présentée dans un pot d'argile. Ce pot recouvert de feuilles de bananier. Le bouillon est rempli de basilic, citronnelle et tranches de poivron vert, rouge et jaune. Et aussi une pincée de tranches d'oignon rouge frit. Et le goût de l'aliment est très bon. Il est un mélange de saveurs salées, sucrées, acides et épicées. Pour maintenir la délicatesse de Kela Lebo, les commerçants choisissent de rester cuire en utilisant la friture en sol. Vous pouvez acheter ce plat au warung, le mot indonésien qui désigne un petit restaurant familial. Vous pouvez commander une portion de Kela Lebo qui contient habituellement un demi-kilo de poisson jusqu'à un kilo de poisson. Pour commander Kela Lebo, vous pouvez ajuster la partie avec le nombre de personnes. Un demi-kilo de Kela Lebo peut être mangé par 3 jusqu'à 4 personnes. Le prix d'une portion de ce plat, 25 000 rupiah jusqu'à 35 000 rupiah. Kela Lebo peut être mangé avec le riz blanc chaud et d'autres menus typiques, comme le plaiching, au sou frisé, le poulet taliban et poisson grillé. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta sur le plat typique de Nusa Tenggara West, Kela Lebo. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs dans le monde entier, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur. Le 29 avril, la journée internationale de la danse est un moment pour la communauté internationale de présenter la beauté de la danse de chaque culture. Concernant la commémoration de la journée internationale de la danse, l'Indonésie en couleur pour ce soir a pour thème Solo 24 heures de danse qui présente les danses d'autres pays comme le Japon, le Mexique et a fini à l'Indonésie. La représentation de ces danses voulait inviter le public ainsi que les visiteurs de voyager au monde entier. Sagittaire, le gamelan sonné solennellement de Pendopo au grand pavillon ouvert de l'Institut de l'Art d'Indonésie, Solo. En plus des batteurs de gamelan, il y a aussi d'autres groupes dont tous sont les étudiants de l'Institut de l'Art d'Indonésie ici. Ces étudiants pratiquaient la danse pour être présentés à l'événement de la Journée mondiale de la danse en 2016 qui avait commencé le jeudi 28 avril à 14h jusqu'à vendredi 29 avril 2016 à 14h. Cette année, il y a des activités spéciales post-événement sous la forme de diverses présentations de danse à même 30h. L'emplacement à cette année est même que l'année précédente, à savoir sur la rue Jenderal Sudirman. La rue Slamet Riyadi et un certain nombre d'endroits au complexe de campus d'ici Solo, comme Pendopo, au grand pavillon ouvert d'ici Solo, un petit théâtre, un grand théâtre, le théâtre Omar Dini, le théâtre de navire et un certain nombre des endroits est utilisé comme la scène pour les danseurs de démontrer leur habileté à cet événement. Dans la 10e mise en œuvre, Solo 24 heures de danse implique un total de milliers de danseurs de différentes villes à travers les pays. Les participants de l'Indonésie proviennent de Sumatra, Java, Kalimantan et Sulawesi. Pendant ce temps, les participants étrangers proviennent de Chine et de la Malaisie. Le nombre total de ces participants cette fois est plus grand que le nombre de participants à l'événement précédent. Solo 24 heures de danse est indirectement la célébration miniature de la Journée mondiale de la danse qui tombe le 29 avril. D'environ 250 délégués de communautés de danse présenteront diverses danses de leurs régions respectives, mais aussi les danses d'un certain nombre de pays dans le monde. Pour animer cette journée internationale, il y a aussi d'autres activités comme l'exposition des photos de danse et des projections de films autour de la danse. La Journée mondiale de la danse est célébrée internationalement comme la commémoration de l'anniversaire de figure de danse de ballet moderne Jean-Georges Nauvert, 29 avril 1727. Depuis l'an 1982, l'UNESCO décide 29 avril comme journée mondiale de la danse et a consacré comme une forme de convivialité des danseurs dans le monde pour construire un espace d'expression. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici l'émission en langue française dans la magazine de musique édition de vendredi. Vous pouvez aussi écouter notre émission, cette magazine, sur l'audio streaming www.voi.co.id ou l'application RRI Play sur votre gadget ou portable. Et bien sûr, avec l'écoute sur la fréquence 9525 kHz. Chers amis, pour ce soir, on présente le genre de musique de dangdut comme chaque vendredi. Et ce soir, avec la chanteuse Mega Mustika. Alors, pour ouverture de notre rencontre, écoutez d'abord une chanson de Mega Mustika intitulée Mengalah. Bonne écoute.
Haruskah aku mengalah?
Chers amis, Mega Mustika est née au 23 juin 1974. Elle a du talent comme chanteuse. De plus, elle commence sa carrière aux années 80 et 90. Son esprit dans le monde musical de Dangdut est très grand. Alors, ses chansons sont populaires comme Hitam, Bukan Putih, Bukan Yang Pertama, etc. Quand elle est populaire, elle s'est mariée avec le chanteur Johnny Iskandar. Bon, chers amis, allez écouter encore la chanson de Mega Mustika intitulée « Hitam bukan putih ».
Walau kau menghibur
Cher fidèles amis, vous savez, le phénomène de rythme de dangdut était énorme, car auparavant, ce genre est pour le niveau populaire. Mais grâce à l'innovation, presque chaque statut social aime le dangdut, ici, aux années 80. Et puis, vous avez la présence de jeunes chanteurs de dangdut comme Iis Dahlia, Irma Ilfiana, Johnny Iskandar, y compris Mega Mustika elle-même, à cette époque, a renversé l'image de dangdut au public indonésien. Et pour Mega Mustika, avec la chanson Bukan yang pertama, composée par Leo Waldi, elle est si célèbre. Bon, chers amis, c'était le magazine de musique avec la chanteuse Mega Mustika. Et avant de vous quitter, allez encore écouter les deux dernières chansons de Mega Mustika, intitulées Bukan yang pertama, Bon écoute et au revoir.
Terima kasih.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.